Vous êtes sur RTL.
RTL Soirée, l'actualité dans le monde.
Avec Christophe Decroix. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Et le beau temps dont on profite, mais qui est sans doute lié au réchauffement climatique, c'est une menace planétaire.
En particulier pour des régions comme le Sahel, où vivent près de 500 millions d'habitants. Ils sont victimes de la baisse de la pluviométrie, des sécheresses à répétition, de l'avancée du désert, de la diminution des pâturages et donc d'une plus grande pauvreté. Pour y faire face, 17 pays de la région, allant de l'Atlantique à la Corne d'Afrique, ont décidé de mettre en œuvre un plan de plus de 350 milliards d'euros contre le réchauffement climatique. Ils estiment qu'il est responsable de l'émigration de leur population, mais aussi de la montée de la violence. Un exemple très clair, c'est celui du lac Tchad. Sa superficie a diminué, d'où moins de ressources agricoles, moins de poissons aussi. Une paupérisation de la population qui a permis, par exemple, au groupe islamiste Boko Haram de se développer.
Le sommet Kim-Trump à Hanoï a peut-être des effets jusqu'au Venezuela.
Oui, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères appelle à une rencontre entre son président, Nicolas Maduro, et Donald Trump.
Ah oui.
Les deux présidents ont pourtant dit pique-pendre l'un de l'autre. Le gouvernement vénézuélien accuse les États-Unis d'être en partie à l'origine de la crise humanitaire qui frappe le pays. Inversement, Washington dénonce une candidature et reconnaît Juan Guaido, un opposant, comme président légitime. Alors, pour tenter de mettre un terme à cette crise, Maduro serait prêt, comme Kim Jong-un, a dialogué avec Donald Trump.
Vous nous en parliez dès hier, la tension est toujours vive entre l'Inde et le Pakistan.
Je vous parlais du bombardement par l'armée indienne d'un camp d'insurgés situé en territoire pakistanais. Aujourd'hui, ce sont les Pakistanais qui ont abattu deux avions indiens qui survolaient son territoire. Les deux pays se disputent la région frontalière du Cachemire, deux puissances nucléaires qui assurent ne pas vouloir l'escalade. Des milliers d'habitants ont toutefois préféré fuir la zone.
Et puis les lutteurs de sumo sont priés d'aller se raser, plus question de voir un poil dépassé.
Mais vous connaissez ces lutteurs de dimension
impressionnante.
Leur discipline, qui consiste à expulser leur adversaire hors d'un cercle sacré, date de plus de 2000 ans. Alors depuis quelque temps, certains lutteurs superstitieux ont pris la fâcheuse habitude d'arborer qui une moustache, qui un collier de barbe, voire une barbe de 3 jours. C'est vilain, a déclaré un porte-parole de l'association de sumo. Les barbes indécentes vont devoir être rasées. D'ailleurs, au Japon, il n'est pas rare de voir des entreprises demander à leurs employés de se raser. Pareil donc pour les sumo qui vont également devoir se passer de tatouages et ne pas avoir les ongles trop longs. Vous pouvez me montrer les vôtres,
Marc-Olivier ? Ils sont tous mangés, alors. Merci Christophe Decroix, à demain.
RTL Monde. Marc-Olivier Fogel.
Le grand format de RTL Monde, les Palestiniens l'appellent la route de l'apartheid. Les Israéliens la désignent comme la route 4370. À l'est de Jérusalem, une nouvelle route vient d'ouvrir. Pour éviter les attaques, un mur sépare les automobilistes palestiniens et les Israéliens. Le reportage de Mathias Somme.
Il faut monter sur les collines à l'est de Jérusalem pour voir la route dans son ensemble. Deux voies, séparées par un haut mur. Un petit groupe d'activistes venus manifester l'appelle déjà la route de l'apartheid. D'un côté, un tronçon qui va de la Cisjordanie à Jérusalem avec un checkpoint à l'entrée. Seules les voitures avec une plaque israélienne peuvent l'emprunter. De l'autre, une route qui reste dans les territoires occupés. À l'entrée de cette route, côté palestinien, un groupe de taxis s'est regroupé dans l'attente des clients.
Avant, avec les Israéliens, on était comme des frères. Croyez-moi, je dormais chez eux. Et eux, ils sont venus à mon mariage, dans ma maison. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout cela, c'est à cause d'Oslo. Qu'est-ce que ça nous a apporté, Oslo?
Les accords d'Oslo, conclus en 1994. Un plan de paix entre les deux peuples. Mais l'échec de son application a augmenté les tensions entre Israéliens et Palestiniens. C'est d'ailleurs pour des raisons sécuritaires que le gouvernement israélien a choisi d'ériger cette structure. Grâce à elle, Israël Gans, maire d'une colonie, peut désormais rejoindre Jérusalem beaucoup plus facilement.
C'est une plaisanterie. On n'a pas fait cela pour se séparer d'eux. Si on a construit ce mur entre les deux routes, c'est parce qu'à plusieurs reprises, ils nous ont jeté des pierres et des cocktails Molotov depuis leur village.
À l'ouest du mur, nous croisons aussi des Israéliens arabes qui se rendent dans les territoires occupés. Pour Aviv Tatarski, porte-parole de l'ONG Iramim, l'apartheid ne se fait donc pas entre juifs et arabes, mais entre palestiniens et israéliens.
Même si ce n'est pas complètement lié à la religion ou à l'ethnie, cela ne change pas vraiment le fait que des millions de gens vivent sous la loi de l'armée israélienne. Ce n'est pas une démocratie.
Ce mur pourrait aussi être un symbole de l'échec de la solution à deux États. Mieux relier les colonies à Jérusalem pour en isoler un peu plus des Palestiniens.